Bien, le quart d'heure poids de vin est écoulé. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour cette dernière conférence du cycle écriture et photographie. Donc, je vous le disais mardi, après la critique photo Frédéric Chapuis, on est avec les invités qui pratiquent l'écriture sur la photo. Et là, je suis vraiment très très heureuse qu'Anne-Marie Gara ait accepté de venir, parce que non seulement il me semble que c'est la romancière française vivante qui a le plus de constance dans le rapport à la photographie, dans une vingtaine d'œuvres maintenant, ce qui est assez énorme. Là, j'en ai apporté que quelques-unes. Donc la librairie Gibert, qui se trouve à la sortie, à l'entrée, les représente presque tous. Et donc c'est sur ce sujet de qu'est-ce qu'écrire sur la photo, est-ce toujours fiction de parler sur la photographie, qu'il fallait vraiment interroger Anne-Marie Gara, parce que c'est vraiment dans toute son œuvre, que ce soit les petits ouvrages comme La première fois, ou encore comme La rotonde, ou encore comme L'amour de loin, ou les romans plus volumineux comme Chambre noire et d'autres que je n'ai pas là. Vraiment cette question de la photographie, et peut-être pas en tant que question d'ailleurs, en tant que mystère devrait-on dire plutôt, je crois, est vraiment importante. Il y a aussi cet ouvrage Photo de famille qui est important, qui est un phototexte comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une œuvre hybride dans laquelle on trouve des images et leurs commentaires, va-t-on dire, parce qu'il ne s'agit pas d'analyse, il s'agit d'écriture à partir d'elle, il s'agit du développement, et je ne saurais mieux dire, d'un imaginaire propre à l'auteur à partir de ses photographies. Donc c'est une véritable œuvre littéraire et qui s'inspire vraiment de la photographie, ce qui est rare aujourd'hui. Je crois qu'il y a Denis Roche en poésie et Anne-Marie Gara en roman aujourd'hui. Donc, et il faut que je dise aussi, parce que pour les étudiants, la petite fabrique de l'image qu'on vous recommande systématiquement à l'entrée en master, si ce n'est avant, peut-être pour les arts du spectacle et dans certains cours sur l'image. Alors là, j'ai une vieille édition, parce que je l'avais achetée au début. Elle a été régulièrement rééditée. Anne-Marie Gara est l'un des trois auteurs, avec Jean-Claude Fauzza et Françoise Parfait. Donc cet ouvrage n'est plus disponible, mais il est encore dans les bibliothèques pour le moment. Donc voilà, j'abrège là cette trop longue introduction, et je remercie encore Anne-Marie Gara d'avoir accepté de venir.
Merci à Anne Guilbard de m'avoir invitée, et puis Madame Bonnefoy aussi de m'accueillir ici. Merci d'être là pour entendre parler de ce sujet. Je pense que tous ceux qui sont là sont assez motivés pour cette question qui peut-être court pas les rues, hein, cette relation entre écriture et photographie. Alors, je pourrais dire que c'est pas un programme pour moi, c'est pas programmatique comme ça, entrant en écriture. Alors là, je vais pas commencer ma biographie, mais quand est-ce que je me suis mise à écrire et comment c'est venu, etc. Mais de fait, et me retournant sur le passé, je m'aperçois qu'il n'y a pas un seul de, je sais qu'il n'y a pas un seul de mes livres où la photo n'intervienne d'une manière ou d'une autre, et que son ancrage romanesque a pris toutes sortes de formes que là aussi je n'ai pas réfléchi. Je suis pas tout le temps par-dessus mon épaule en train de me demander ce que je suis en train de faire, de le théoriser ou de je ne sais pas quoi, mais je sais que ça a connu des mutations, cette manière d'aborder l'image, et principalement l'image photographique, pas toujours, hein. L'image de cinéma aussi est présente, mais de manière dominante, c'est l'image photo, c'est la photo. Et c'est arrivé assez tard aussi que je me décide à écrire cet essai, à une époque où j'étais au Seuil et dans la collection dirigée par Denis Roche, donc Fiction et compagnie, où j'ai pas mesuré à l'époque, même quand il a accepté de publier ce livre, que c'était une exception. Il avait publié également un livre sur un photographe, je ne sais pas comment on dit, mais enfin son nom, Eugène Bafkar, il est slovène, je crois, hein, Evgen Bafkar, je ne sais pas comment on dit hein, en slovène, bon, qui est en fait en plus un photographe aveugle, hein, et qui fait des photos. Bon, est-ce que c'est possible ça? Donc il y a dans sa collection, Fiction et compagnie, donc deux livres, et puis tous les deux d'ailleurs publiés de manière cheap, parce que si on remonte il y a 20 ans encore, l'idée surtout de la photo de famille, de la publier avec, de se donner les moyens de la reproduire de manière décente, si vous voulez, c'est-à-dire finalement, quand on sait, en tout cas la photo noir et blanc, qu'elle est rarement, elle peut être noir et blanc, mais que majoritairement, elle est monochrome, hein, c'est du monochrome. Et donc, il fallait de la quadrichromie, finalement, pour la reproduire. Ben non, pas du tout. Là, ça avait été publié d'une manière assez pauvre, avec du papier d'imprimerie pas prévu pour, enfin, etc. Et Actes Sud a relevé le gant, en quelque sorte, en rééditant, là, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, je ne sais plus, il y a 2 ans, je ne sais plus, ce livre, avec une quadrichromie qui n'est quand même pas tout à fait, disons, orthodoxe, mais enfin, quand même un peu, qui en donne les variations du sépia, disons, pour dire, en gros. Hein. Et d'autant qu'il y avait quelques pages en couleur à la fin, d'écran, de saisie d'écran, des stockages informatiques de l'image numérique dans nos ordinateurs, n'est-ce pas ? Donc, il fallait un petit peu de couleur. Et surtout parce que je l'ai augmenté, ce livre, d'un chapitre nouveau, de choses qui me sont venues, de mon rapport à cette question de la photo de famille et de la mémoire familiale et de son stockage et de sa circulation, donc d'un chapitre de plus sur l'irruption du numérique. Bon, je vais peut-être vous reparler de tout ça d'abord, hein. Ensuite, je vous propose d'aborder par deux angles mon rapport à l'imaginaire photographique, si j'ose dire, à l'imaginaire scientifique. C'est peut-être pour ça aussi que je peux m'inscrire dans le cycle, hein, des conférences qui ont eu lieu ici. Il y a une très belle citation de Borges, là-bas, en arrivant, vous l'avez peut-être vu, sur le haut, sur le mur, qui dit, je ne sais pas, je cite de mémoire un peu, il dit que finalement, la science est la manière la plus aboutie, la plus, je ne sais pas quoi, comment on dit, de la littérature scientifique. J'ai presque envie de renverser les choses et de dire que la littérature est la forme la plus aboutie de l'imaginaire scientifique. Hein. Bon. On va peut-être. Donc j'aborderai ces deux angles-là tout à l'heure après. Donc je reviens à ce tropisme que j'ai pour la photo de famille, qui n'est pas du tout que je suis, ça arrive, en déficit d'image familiale. Il y en avait chez moi, hein, des photos de famille, comme il y en a dans beaucoup, pas dans toutes, parce qu'il y a des fractures de l'histoire qui font que cette pratique populaire a échappé, ou aussi pour des raisons très tragiques de l'histoire, hein, qui font que certaines familles, il y a un angle aveugle, il n'y a pas d'image de la famille. Bon. Mais disons que majoritairement, et le XXe siècle a connu, allez, pour dire vite, une espèce de partage, d'une démocratisation, disons, de cette pratique à un moment où, qu'on peut situer dans l'entre-deux-guerres, certes qui apparaît avant la guerre de 14, mais où l'appareillage coûteux, lourd, complexe à utiliser et réservé à des élites, étant donné sa cherté, étant donné ses manipulations et ce que cela requiert de compétences techniques, voire scientifiques, chimiques en tout cas, optiques, enfin, etc. Hein, et où c'est l'histoire sociale et technique, hein, de la photo qui fait qu'à un moment donné, cet appareillage est dans la logique d'un développement industriel et d'un besoin, d'un désir aussi partagé socialement de l'image de soi, l'appareil se fait plus léger, maniable, transportable, etc. Et où même le développement de la photo n'est plus à la charge de l'opérateur, mais pris en charge par l'industrie, n'est-ce pas ? Bon, je ne sais pas si sans doute parmi vous, il y a des gens qui savent assez de choses là-dessus. En gros, c'est Eastman qui, avec l'appareil Kodak, la boîte, permet, avec cette boîte, de faire des photos. N'importe qui peut faire des photos. Pressé sur le bouton, nous faisons le reste, n'est-ce pas ? La formule célèbre, hein, tout le reste est pris en charge par l'industrie. Vous n'avez plus qu'à appuyer, c'est magique, vous n'avez plus qu'à appuyer, c'est la pression digitale qui produit l'image. En cela, d'ailleurs, confirmant tous les préjugés depuis les débuts, depuis les pionniers, vis-à-vis de la photographie, que c'est un art mineur, voire même pas un art, puisque c'est une reproductibilité technique, mécanique, du monde, du réel, je ne sais pas si il faut dire du réel, mais enfin du monde, hein, et que, puisque n'importe qui, sans qu'il y ait un apprentissage minimal, peut le faire, donc ça vaut rien. Ce que s'efforceront toutes sortes d'artistes de démentir, avec tout le courant artiste, hein, toute l'esthétisation avec tout l'héritage pictural, hein, pas simplement pour les pictorialistes, pour ceux qui seront dans un courant pictural de la photo, mais de tous ceux qui vont hériter les modalités de représentation, quoi, avec les grands genres, le portrait, la nature morte, le paysage, enfin, les marines, enfin, tout ce que vous voulez, tout y est, hein, en photographie. Bon, alors, passons là-dessus. Je suis attachée, alors pour des raisons, je ne vais pas faire, c'est autobiographique toujours, hein, on se dit, quel est, si je le situe, je vous le raconte, je suis déjà en fiction, si je raconte que, est-ce que tout le monde a vécu dans sa famille, il y a un moment donné, et mon âge fait que le premier rapport avec l'appareil, il se situe dans les années 50, n'est-ce pas ? L'appareil est la propriété, du moins la propriété, il n'est pas très propriétaire parce qu'il ne sait pas très bien s'en servir, je trouve, mon père, en tout cas c'est lui qui en a l'exclusivité, de faire des photos de famille. Et cet appareil, je le convoite sans doute comme tout enfant, allez, on va aller chercher du côté phallique et tout ce que vous voulez. En tout cas, comme il n'y a que lui qui en fait et que moi j'ai très envie d'en faire, de voir en tout cas aussi avec cet appareil qu'est-ce qu'il peut produire comme drame familiaux. Quelque chose dans le drame, entendez, ça peut être très gai aussi, hein, mais enfin de solennité du moment de la prise avec un appareil à souffler, enfin... Lui-même, d'ailleurs, cet appareil, dont la plupart d'entre vous n'ont peut-être jamais eu, qui n'ont peut-être jamais eu dans les mains, sinon derrière les vitrines des musées maintenant, cet appareil à souffler, qui se déploie, qui exhibe une espèce de machinerie organique, n'est-ce pas, que je nomme pas encore la chambre ou je sais pas quoi, et en tout cas, ont lieu à ce moment-là des prises familiales assez rares, exceptionnelles, avec des ratages terribles, avec des ratages... tout ce que les orages familiaux peuvent créer autour. En tout cas, je le situe comme ça, comme une espèce d'addiction à cet appareil-là que je convoite, que j'ai fini par obtenir. Il fallait que mon père meure pour que j'hérite l'appareil, finalement, que je m'en empare. Finalement, je n'ai jamais fait de photo avec cet appareil-là. Ou si j'ai essayé, il n'y a pas très longtemps, d'y mettre une pellicule 6-6 pour voir en F6 ce que ça donnait. Mais bon, c'était... Puis en plus, il y a des fuites maintenant dans le soufflet en cuir. Et il est un peu percé, donc ça ne donne rien du tout. La seule chose que j'ai raconté quelque part, c'est ce qui s'est passé la première fois que je l'ai eu en main. Il y avait une pellicule engagée dedans et que confiant l'appareil à un brocanteur, vous savez, les vides-greniers, etc., qui sont dans la rue devant chez moi, etc., bêtement, naïvement, je lui ai porté l'appareil pour qu'il me dise « Mais voyons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et il y avait une pellicule engagée, bien sûr, brûlée immédiatement par la lumière, hein. Bon, je ne vais pas faire, je vais pas non plus la filer des choses de la nostalgie, de la séparation, de la confiscation, de ce qu'il y avait dans ces images-là et que je ne verrai jamais. Il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, peut-être que la pellicule était vierge, après tout. Mais quand même, il s'est passé quelque chose avec cet appareil qui fait que j'y vérifie ce qui tout au long et très tôt, je ne sais pas, adolescente ou je ne sais pas quoi, m'est arrivé que je me suis mise à collecter des images. On en trouve partout. Si on en trouve partout, ce n'est pas par hasard. C'est que cette hémorragie sur la place publique, dans les brocantes, les vieux tiroirs, les vieux papiers, etc., d'une photo qui, en fait, est destinée à l'intimité de la famille, hein, à la fréquentation familiale, vous pouvez acheter n'importe où. En tout cas, il y a pas mal d'années, une trentaine, quarantaine d'années, disons, on pouvait acheter pour Peanuts des photos perdues, dont on se dit que ce sac-là, il correspond quand même à un abandon de ce qui était de l'intime des familles, hein, de l'intime de l'histoire familiale. Et donc, j'ai pu acheter comme ça, glaner, parce que quand je dis collecte, il ne s'agit pas d'esprit de collection, il y a des collections pour tout. Et aujourd'hui d'ailleurs, la collection, le collectionneur, a tellement envahi le marché que c'est devenu inabordable. J'entends qu'aujourd'hui, il faut mettre 10, 15 euros pour le moindre cliché le plus banal, ordinaire, et soit-il. Alors que je dis à l'époque, vous voyez déjà un temps assez lointain, pour, je ne sais pas, 5 francs par exemple. 5 francs, on avait une valise entière, toute une famille dans la valise. Hein. Je n'ai jamais acheté une valise. J'ai acheté une par une des photos sur lesquelles j'avais, et pas forcément dans l'instant, conscience de ce qui m'attirait, de ce qui m'intéressait dans cette photo. Et pour certaines d'ailleurs, je n'ai jamais élucidé. Pour d'autres, oui, davantage. Et encore, peut-être, qu'est-ce qui faisait que dans ces photos-là, quelque chose me touchait, me concernait, remuer des choses qui ont mis un certain temps jusqu'à ce que j'écrive cet essai en me disant « Mais voyons, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, en tant qu'écrivain, avec cette photo qui, jusque-là encore, aujourd'hui, maintenant, des historiens de la photographie, historiens tout court, se mettent à s'intéresser à ce qui a été massivement une pratique populaire, disons un siècle à peu près, hein, d'histoire populaire de cette pratique, méprisée et ignorée, hein, et qui aujourd'hui quand même, grâce à Friseau, grâce à d'autres, commence à entrer dans les histoires de la photographie, et également dans l'histoire sociale, histoire de, vous en avez d'ailleurs un exemple là, de tous ceux qui ont tenu chronique de la vie des anonymes, qui ont eu senti qu'il y avait, y compris dans la photo d'anonyme, de l'anonyme en train de photographier des anonymes, hein, qui ne sont pas toujours des photographes professionnels, des journalistes, des reporters, qui sont allés. Il y a aussi cette chronique, en quelque sorte, tenue par l'anonyme de sa propre vie, et qui constitue, je crois, un corpus non exploré encore. Sûrement, il y a des fonds partout, des fonds familiaux, des fonds privés, mais aussi des fonds industriels dans le Nord, par exemple, de l'histoire ouvrière, enfin, etc. Et donc, il y a là un fond extraordinaire à explorer, encore, je crois qu'il est encore à explorer. Et donc, la photographie de famille, spécifiquement, parmi toutes les photographies d'anonymes, a sa singularité qu'elle n'a pas d'intention d'art. Encore que l'opérateur est traversé, toujours, par des figures, par des topos, par des normes. Mais il n'a pas cette visée-là à être artiste, ni à être documentariste, ni à être... on pourrait dire une gratuité, attention. Il y a quelque chose d'extrêmement privé, donc, dans ce qui pousse à cette... Alors, je vous parle là, en ce moment, de quelque chose qui a beaucoup bougé, très, très vite bougé, avec l'irruption du numérique. Je voudrais justement parler de ça, pour moi. Parce que ce qui m'intéresse, finalement, dans ces photos, c'est pas tant, on pourrait le croire, pour un écrivain et un écrivain de fiction et de roman, que cette photo-là, qui réunit des gens avec des décors domestiques de l'extérieur, de l'espace privé, plus largement urbain, du village, je ne sais pas. On peut l'étendre. Il y a une extension dans l'album de famille de ce qu'on trouve, de photos de voyage, photos aux lisières, et là on touche les limites de la guerre, de la maladie, de toutes sortes de zones dans lesquelles la photo devient autre ou est interdite. La photo du mort, la photo pour la guerre de 14, par exemple, il y a eu énormément de photos clandestines faites par les soldats, puisque la photographie était interdite au front. Seule au front avait lieu la photographie officielle, la photo commandée par les militaires. On est déjà dans le contrôle, là, à la fois et du territoire, de la guerre, et de la réalité de la guerre. Bon. Ça, on peut le remonter à Fenton, on peut remonter à la guerre de Sécession. Ça a toujours été ça, que la photographie de ces lieux de mort, de ces lieux de carnage, elle appartient à des opérateurs commandités, et que la photo privée, la photo d'anonyme qui accède à ces... Bon. Donc l'album, il comprend quelquefois des photos, je veux dire, vous avez de soldats dans les Aurès, ou d'un soldat en 14 qui avait emporté un petit... Au moment où les appareils commencent à devenir plus petits, plus dissimulables, qui fait des photos en fraude. Bon, on en a, au musée de l'histoire contemporaine, aux Invalides, vous avez des photos d'anonyme, comme ça, de la guerre de 14. Mais bon, l'album, il comporte ça aussi. Donc, les photos de voyage, tout ce que... Mais de manière majoritaire, il comporte tout le corpus de la vie familiale dans des moments très ritualisés. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, sur toutes les conventions et le détournement des conventions, d'ailleurs, et du traitement de la photo dans ses albums, de la manière dont elle est montée en livre, en véritable livre d'heures, on pourrait dire, de la vie de chronique, de la vie familiale, de reconstitution ou de constitution, tout simplement, d'une généalogie imaginaire, réelle et en même temps fantasmée, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on mesure à quel point cet outillage autorise le peuple, le populaire, à accéder à ce qui jusque-là était le privilège à la fois des dieux, n'est-ce pas, les généalogies des dieux, les généalogies des princes, des grands de ce monde, qui avaient leur galerie de portraits. Et c'est là que nous pouvons réaliser à quel point, et pour moi c'est quelque chose qui tient à la littérature aussi, à l'émergence au XIXe siècle, à travers la figure de Jean Valjean, évidemment, cette figure... centrale et géniale, je parle de génie là, du génie hugolien, d'inscrire cet anonyme Jean Valjean qui n'a pas de nom, qui n'a de nom que d'un sobriquet, Jean Valjean, de l'inscrire dans le roman Des Misérables comme l'émergence d'une conscience, d'une présence, d'une identité, pas encore revendiquée comme telle par la République ensuite qui l'instituera avec l'état civil, avec la reconnaissance pour chacun d'une dignité de citoyen, mais l'album de famille tenant en quelque sorte place pour l'anonyme d'un livre de sa généalogie avec tout ce que cela traîne derrière soi et qui sont des questions romanesques, des questions liées à la narration de la parenté, de l'appartenance, de l'identité, de la filiation et de l'interrogation sur l'origine, évidemment, la ressemblance, etc., etc. Tout ce qui, dans l'empreinte du visage pardon... constitue qui fait de tout un personnage, qui donne destination en quelque sorte, qui semble donner destination à chacun, un destin à chacun. Et c'est pour ça qu'il y a cette... C'est pas un malentendu, hein. Je crois qu'il y a une ombre portée sur la photo de famille qui est celle du roman familial, que toute famille, tout un chacun transporte le roman de sa famille, qui n'y a plus qu'à l'écrire en quelque sorte, hein. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Mais donc, et ce roman-là, si on le regarde tel qu'il est écrit, tel qu'il est transmis par l'album, et vous savez bien qu'il n'est pas transmis de manière écrite, et seulement dans l'oralité, c'est-à-dire dans cet héritage très ancien de la littérature de voix orale, qui se raconte et qui se transmet de génération en génération, où l'album de famille suscite en famille ce récit délivré et qui ensuite se répète et qui crée et qui fabrique une fiction de la famille, dans laquelle d'ailleurs sont chassés tout ce que je disais tout à l'heure de ce qu'il a la matière noire du roman, entendez la, toutes les choses terribles du sexe et de la mort, hein. Dans l'album de famille, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de pendu, il n'y a pas de suicidé, tout le monde sourit, tout le monde est toujours heureux dans les albums de famille. Donc c'est une fiction, n'est-ce pas, qui est construite là, qui a une dimension sociale, qui a aussi une histoire, hein, une histoire de la manière dont la famille se représente à elle-même, avec tous ces angles aveugles, avec tout ce qui est évacué et qui rôde autour. Bon, donc cette photo m'intéresse. J'y ai intérêt. Mais ça, ce n'est pas celui que l'on pourrait croire d'aller y puiser quand le carburant manque pour mettre en route la machine romanesque, la narration, n'est-ce pas, d'aller chercher, ah tiens, j'ai inventé un destin à celui-là, celle-là. Je dirais que je n'ai pas de mépris pour ça, disons, mais bon nombre de... peut-être même d'écrivains, hein, avouent ça, qui n'est pas honteux, mais qui est quand même la manière un peu simplette d'aller chercher dans la photo de famille ce carburant-là. Il y est, hein, bien sûr. Toute photo de famille en elle-même génère, contient, je dirais même avec beaucoup de stéréotypes, une histoire familiale. Bon, je suis plutôt, je le sais, mais à force de récupérer de ces photos, de les accumuler, de les regarder, etc., que je suis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'opérateur, du côté de ce qui s'est passé dans ce moment, hein, qui est de l'ordre de, y compris pour la photo à longue pause, de l'instant, d'une plus ou moins grande durée, du déclenchement, où l'opérateur, et surtout celui-là, l'opérateur anonyme, incompétent, inappris, qui est, je pense à mon père, hein, devant un appareillage qui quelquefois, dont il ignore les mécanismes, celui de la chambre noire d'abord, hein, avec la sténopée, enfin, tous les effets de la lumière et de l'image inversée, de sa mémoire gardée dans les matières photosensibles, hein, où le croyait les pionniers, allait pinceau de la lumière allait s'écrire la réalité du monde, hein, en vérité, ce qui continue d'être une croyance encore aujourd'hui devant la capacité de la photo à énoncer une vérité, et donc qu'il y aurait donc un mensonge, qu'il y aurait donc du monde. Bon, ça me remue profondément. Ce que fait cet opérateur inappris, inconscient, encore que inconscient, dans quelle inconscience se passe quand même une conscience de ce qu'il fait quand il déclenche, pas un dixième de seconde avant ni après, qu'il y a, et croit-il du hasard qu'il a déclenché à ce moment-là, et que la photo advient à ce moment-là, que la prise, bon, avec ce, je parle de l'argentique, avec ce temps retard qui pour moi est essentiel entre le moment de la prise et celui du développement, vous ne l'avez pas connu, aujourd'hui il est en voie de disparition, peut-être il y a quelques îlots de résistance de l'argentique, où il fallait développer la photo, la porter chez le photographe, ou la développer soi-même en laboratoire. Je vous souhaite quand même un jour ou l'autre, jeunes gens, de vivre cette expérience, maintenant un petit peu ancienne, archaïque, un peu bon, allez, vivez là quand même, du laboratoire dans lequel on développe les photos. Les négatifs d'abord, puis les épreuves, hein. Avec la lumière une deuxième fois, appeler la lumière une deuxième fois sur la pellicule pour qu'elle vienne émouvoir, parce qu'on dit imprimer, impressionner, etc., le papier sensible, hein, émouvoir le papier sensible de telle sorte que apparaît dans le bain, dans cette liquidité, cette chimie des bains, donc apparaisse l'image, qu'elle monte, qu'elle se révèle. Il n'y a pas de mot, hein, pour distinguer, on dit les révélations, vous savez, c'est un mot un peu mystique, théologique, je dirais. Le révèlement, il n'existe pas en français. Moi, je l'ai utilisé une ou deux fois. Je ne sais pas si c'est un néologisme. Enfin, il y a quand même une différence entre ça et ça. Mais pourquoi refuser la dimension mystique qu'il y a dans les révélations ? Donc, je suis du côté de l'opérateur, du côté de ce qui se passe dans la chambre noire, de ce temps retard pendant lequel temps fermente quelque chose. Fermente quelque chose dans la pellicule, évidemment dans la gélatine, où la photo, le négatif, a enfermé une empreinte lumineuse qui produit des effets sur la gélatine. Et donc l'image est en puissance, elle est latente, elle attend. Elle est en souffrance, comme on dit, hein, un paquet en souffrance, une image en souffrance, elle attend son développement. Pendant ce temps-là aussi, je crois qu'il y a une souffrance de l'opérateur, de celui qui, qu'il y pense ou pas, a capté visuellement, a vu au viseur quelque chose, et qui a un rendez-vous avec l'image, une fois développée, qui, le plus souvent, est déceptif de son attente, hein, quelquefois outrepasse son attente. Et donc, pendant ce temps-là, fermente de manière mentale, psychique, et dans, je crois, très profondément de manière organique, je le situerai même au niveau du ventre. Ah, j'ai lu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas découpé, j'aurais voulu que nous pensions avec le ventre. Moi, je pense que ce nombril, là où se place d'ailleurs le 6-6 dont je me servais, hein, on photographie avec le ventre, d'ailleurs le Voigtlander de mon père aussi, on photographie avec le ventre, avec cet œil-là, qui est un œil apparemment de saurien, aveugle, avec une étrange paupière, celui de notre origine, hein, celui du nombril qui nous tient à la génération. Je pense qu'il y a des choses qui se passent dans le ventre photographique. Vous voyez que c'est un imaginaire dont je vous parle, hein, un imaginaire de l'appareillage. C'est de ce côté-là que je me place. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps photographique-là que l'opérateur des photos que je récupère, là, que je ne connaîtrai jamais par excellence, il est l'anonyme majuscule, hein, a opéré. Et ça a à voir avec la littérature pour moi. C'est-à-dire avec le temps, le temps d'y mettre des mots, entendez. Le temps de tirer au langage, et ça sera forcément une trahison. Les mots qui vont venir, les mots qui vont organiser cette expérience-là, elles seront une manière de figer, d'organiser la, hein, cette, ça, qui sera une fiction, une feinte dans le langage de quelque chose qui n'appartient pas au langage, qui est une expérience du corps, de l'œil essentiellement, de la vue, mais de tout le reste du corps, je crois, y compris de la gestuelle, du déclenchement digital. Et tout ça fait un bloc, si vous voulez, pour moi, que je n'en finis pas de fouiller, d'interpréter. Et je ne suis pas assez, moi, alors, outillée, pour le coup, de théorie, un peu quand même, parce que je suis avide de comprendre et donc de lire des choses. On peut en lire dans les bibliothèques, hein, je n'ai pas fait d'études de photos, mais enfin, je ne suis pas une spécialiste de rien de tout ça, hein. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de tout ça et ils écrivent des choses, on peut aller les lire quand même. Donc j'apprends des choses sur moi-même aussi, mais qu'est-ce qui fait que j'ai incorporé en quelque sorte l'appareillage, à la fois la chambre, ses loupes, ses optiques et toutes ces chimies dont je vais parler tout à l'heure, ces mutations chimiques qui dialoguent avec la lumière et avec les ombres et qui produisent. Là, il y a pour moi quelque chose qui, dans le langage littéraire, peut trouver des formes d'interprétation, de même que toute photo interprète, que toute photo est une épreuve. Elle met à l'épreuve le monde et s'interprète, c'est-à-dire se fabrique, se construit, se manipule. Si vous avez un jour, vous tirez des photos, vous verrez à quel point au laboratoire, vous êtes de manière quelquefois terrifiante aux prises avec la lumière, avec le bloc de lumière, avec la colonne de lumière qui tombe de l'agrandisseur. Que vous pouvez même toucher la lumière, que vous pouvez ce qu'on apprend très vite, hein, qui est complètement artisanal, de la travailler, de travailler la lumière pour faire en sorte que l'ombre ici, où c'était surexposé ou sous-exposé, vous allez complètement retravailler l'image et obtenir quelque chose que le négatif ne donnait pas ou vous donnait sous une forme que vous allez interpréter, que vous allez construire. Donc, tout ça, pour moi, est très, très, très proche de ce que je fais pendant que j'écris. Encore une fois, je ne suis pas sur mon épaule en train de regarder ce que je fais pendant que j'écris, mais je sais que mot à mot, je sais que phrase à phrase, y compris la virgule, y compris le tempo et la respiration, de cette respiration suspendue pendant que je retiens la lumière et que je la donne et que je la dispense, quelque chose s'invente. Et ça, c'est une manière pour moi d'en parler. J'en parle, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est poétique, si c'est une manière de créer, d'inventer dans le geste photographique qui existe, que tout photographe amateur, etc., peut faire. Quelque chose qui est de l'ordre de ce que le langage peut produire aussi, en de manière poétique, créer dans la langue d'une forme que je vais décréter aussi, que je vais arrêter, à laquelle je vais même échouer, à laquelle je vais quelquefois renoncer. Bon. Donc, ça, et puis, donc, la chambre noire, tout cet imaginaire qui est lié à cet appareillage. Sans doute consciente que le touchant, cet appareil de mon père, de l'œil de mon père, de l'œil mort, de mettant mon œil dans l'œil mort, je suis aussi dans l'œil mort d'une longue histoire, enfin, dans cet œil mort, entendez, il n'y a pas plus vivant que les morts. Nous vivons des morts, ils vivent en nous, ils nous font vivre, et c'est pas triste ce que je dis, c'est grave, mais c'est pas triste. Je suis pas dans cette mélancolie qui dirait « Ah, oui, la photo a à voir avec la mort, bien sûr qu'elle a à voir avec la mort. » Que elle, dans ce déchirement de toute photo, le plus inappris, le plus inconscient, le plus étourdi des photographes, au moment où il déclenche, il est au fait même de la vie et de la mort. Il est au centre de la question. C'est extrêmement fugitif. Tant mieux s'il ne le sait pas chaque fois qu'il appuie, et y compris dans le numérique, hein. Peut-être pire encore avec le numérique, qu'il est dans ce décret de vie et de mort. Mais ce n'est pas ce que je vous dis là. Bien sûr qu'on a rattaché la photo à la mélancolie, à cette bile noire, hein, par laquelle nous sommes dans un dépris du monde et que les choses sont irréversibles et nous échappent. Bon, mélancolia, hein, là, Durer, hein, bon, voilà. On va pas s'arrêter là, non. On va quand même regarder ce qu'il y a de vital aussi là-dedans, d'énergie vitale, dans cette manière de replacer son œil, dans tous les yeux morts. Et j'entends très, très anciennement, depuis la caverne, mettons, de cette chambre où a lieu ce phénomène physique, optique, du sténopée, de la flèche lumineuse qui vient reproduire, projeter sur la paroi opposée, des ombres, elles sont peut-être platoniciennes. Nous sommes héritiers quand même de représentations de notre culture, mais même si elles ne sont pas platoniciennes, de ces figures tremblées du monde qu'on appellera images, et qu'on a mis si longtemps, des siècles, avant d'arrêter de saisir, de garder trace. Hein. C'est ce qu'accomplissent ces gentlemen farmers, quelquefois plus farmer que gentleman, et en tout cas dur en affaires comme daguerre, peut-être un petit peu plus un peu plus amateur et rêveur, je ne sais pas, que Niepce qui se laisse faucher son invention, mais peu importe, ils trafiquent ces hommes-là ensemble. Hein. Quand Niepce, pour la première fois du monde, garde gravé dans une matière photosensible, qu'il a cherchée, je voudrais vous lire un petit passage, mais je vais le lire tout à l'heure, où cette rêverie-là des matières sensibles, photosensibles, m'émeut, et c'est dans le langage que ça s'écrit, que ça s'inscrit, hein, je vais vous le dire là. C'est là que je suis, si vous voulez, quand toutes ces photos-là me touchent, toutes celles que je collecte me touchent à cause de ça, de ce qu'elles portent inscrites et en feuilleté très, très, très compressé, bien sûr, parce que c'est pas épais une photo, ça n'a même pas l'épaisseur d'une peinture où il y a quand même quelquefois de l'épaisseur de matière picturale, de pigments et tout ça. Bon, voilà. Non, la photo, c'est tellement un glacis, mais oui, mais là-dedans, il y a compressé toute cette histoire-là. L'histoire d'un œil, l'histoire d'un regard, l'histoire d'une chambre, l'histoire d'une flèche de lumière et de cette écriture par la lumière, donc, sur une matière qui, elle-même, a une histoire, apparaît au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, que Niepce inscrit dans l'histoire de la photographie, hein, le bitume de Judée. Les bitumes, il en a essayé des tas de bitumes. Et donc, qui va permettre ensuite, à travers tout le XIXe siècle, mais même lire l'histoire de la photographie, est un roman, enfin j'entends un roman des sciences, un roman de toute l'inventivité, l'ingéniosité de tout ce XIXe siècle, dans lequel, puisque Arago avait mis sur la place publique, au lieu d'en faire un brevet privé, l'outillage, n'est-ce pas, le principe photographique, il en fait un discours à l'Académie des sciences, n'importe qui peut inventer sa boîte, inventer ses loupes, inventer son dispositif, vous vous rendez compte, hein, ce qui s'est passé là, et qu'on voit tout le XIXe siècle, lisez ça, l'histoire de la photographie, c'est l'histoire que d'un parcours de subtilité, d'inventivité incroyable pour élaborer, et cette boîte, elle répond à des besoins sociaux, économiques, voire politique. Elle a une histoire de cette sorte-là. C'est de ce côté-là dont je me place, si vous voulez, et c'est pas du tout du côté froid et technique que peut avoir l'histoire des sciences. C'est en quoi l'histoire des sciences est grosse, porte dans ses flancs un imaginaire des désirs, des appétits et des peurs aussi, et de l'histoire humaine. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la dimension organique, viscérale, hein. Il y a du cœur, certes, de l'esprit, de l'âme, si vous voulez, mais aussi des tripes, hein, de ce qu'il y a de plus et de l'excrémentiel. Parlons-en de l'excrémentiel, justement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un des historiens de la photographie qui avait fait une conférence au musée de Chalon-sur-Saône, où je vous invite à aller, hein, le musée de la photographie, musée Niepce. Donc, un des premiers colloques qui avait eu lieu là, grâce à François Cheval, qui organise toutes sortes de choses formidables, hein, là-bas. Je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, mais qui souligne le lien entre cette première matière qui va être le support de la première image du monde, donc, qui est une vue d'une fenêtre au Gras, à Saint-Loup-de-Varenne, hein, qui est en Franche-Comté, dans les grands vignobles, là, hein, très très riches de Bourgogne. Bon. C'est une vue de la fenêtre de sa maison, donc. Donc c'est un paysage, première image du monde est un paysage, et pour cause, il ne faut pas que ça bouge. Hein. Si ça se met à bouger, il est question de temps et de vitesse, tout ce que je vous dis tout de suite. Hein. Si ça se met à bouger, c'est-à-dire si ce n'est pas mort, si ce n'est pas arrêté, si ce n'est pas un corps mort, je ne pourrai jamais le photographier. Et justement, même un paysage, ce n'est pas un corps mort. C'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive, Niepce, qu'on arrive à réaliser quand on essaie de reproduire l'expérience. C'est qu'il a une matière tellement récalcitrante, tellement lente à réagir. On enlève le bouchon, vous savez, en ce temps-là. C'est-à-dire, on désobture et on laisse rentrer quantité de lumière et longtemps, 30 secondes, 2 minutes, une demi-heure, une heure, et ça ne suffit pas encore pour venir impressionner, que la matière soit assez impressionnée pour qu'elle garde trace. Ça ne se grave pas comme ça, une image. Et donc, on comprend que le paysage qu'il a photographié, il n'a pas fait une photo, la première photo du monde. C'est une illusion de photo, ou plutôt, qu'est-ce que c'est la photo, là? Qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'il a dû photographier au moins 8 jours de rang, tous les jours à la même heure. Parce que s'il fait une photo à 10h du matin et une à 5h du soir, les ombres sous la grange, l'ombre de l'arbre n'est pas la même. Même pendant une heure ouvert, l'ombre a bougé. Le soleil a étendu les ombres. Donc, s'il veut faire cette photo, il faut qu'il ouvre l'obturateur, qu'il enlève le bouchon tous les jours pendant, mettons, un quart d'heure, une demi-heure. Attention, au-delà, qu'est-ce qui va se passer ? L'image sera floue, les ombres vont flouter les lignes. Donc, plusieurs jours de rang, et peut-être même un jour passé, parce qu'il y a un orage, parce que ce jour-là, il pleut, que la lumière n'est pas aussi intense. Parce que je veux dire que la première photographie du monde, si on y pense, c'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une photo aujourd'hui, ou ce qu'on croit être, même les photos qu'on fait à 500e de seconde, n'est-ce pas ? Et il obtient cette image assez mauvaise, on dirait, mais qu'est-ce que c'est la bonne image ou la mauvaise image d'un pan de mur, d'un pan de toit, de frondaison, d'une partie un peu surexposée du ciel, cadrée dans l'angle d'une fenêtre. C'est une superposition, une combinaison, une intense feuilletée de temps et de durée qui se sont compressées là pour donner ce qu'on appelle la première photographie du monde, dont il existe, vous le savez, peut-être 3 exemplaires au monde, dont 2 aux États-Unis. À Austin, si vous voulez la voir, il faut y aller. Et encore, pour la voir, c'est pas facile, parce que c'est sur une plaque de cuivre, on peut la regarder voilà. Il faut la refotographier pour un peu la voir, pour la redresser, pour la regarder. Bien sûr, c'est... Je vous parle de cette première photo parce que moi, elle me hante, au sens où elle me raconte que toute photo, et y compris celle que je fais aujourd'hui avec mon appareil numérique, compresse tout ça. Que ce qui est devenu aujourd'hui un geste absolument répandu, ordinaire et même tellement banalisé et dans l'obésité des corpus de photos que nous pouvons faire, parlons de la photo de famille, hein, est-ce qu'elle existe encore, porte héritage de ça, de cette question posée à l'homme à un moment, qu'il résout de telle et telle manière, qui ensuite connaît très très vite, sur un siècle et demi, avec l'évolution technique, des mutations extraordinaires qui font qu'aujourd'hui, avec vos portables, avec toutes sortes d'outils qui se diversifient, finalement, qui déclinent les mêmes questions, hein, que la photo est devenue un geste absolument anodin. C'est donc pas par nostalgie que je vous parle d'une technique ancienne, etc. Mais c'est parce que, y compris dans ces avatars les plus contemporains, me semble poser toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait quand on déclenche? Quel dialogue entretient-on avec l'instant, le corps de l'autre, la présence de l'autre, quelles que soient les motivations pour lesquelles je vais... Vous savez que ces photos qu'on fait d'une fête, qu'on est ensemble dans la rue, qu'on va juste sur la plage, il y a un bon moment. En général, c'est les bons moments qu'on photographie. Bon, les moments où on se sépare, les moments où on se retrouve aussi. Enfin, bon, toutes ces micro-événements de la vie ordinaire et si chargés, si intensément chargés d'affect, de pensée, bon, qu'on ne formalise pas, mais qui sont à notre insu. Il est bon peut-être que ce soit à notre insu, comprimé, compressé dans toute photo, et même de celle qu'on va faire disparaître et avec une légèreté, éliminée de la mémoire. Allez hop, terminé. Le peu d'attachement que nous avons pour ces images aujourd'hui, n'est-ce pas ? Chacune porte ces questions-là. Et donc, vous voyez ce que j'essaie d'exposer là, je ne suis pas bien outillée en théorie pour l'énoncer, hein, mais je sais que c'est ça qui est ma charge, qui est à ma charge et que je n'en finis pas. Je n'ai pas fini, je recommence et je n'ai pas fini de me dire à moi-même, je ne sais pas si je le dis au lecteur, qu'est-ce qui là-dedans remue la littérature, j'entends, le langage, remue ce qui s'énonce de la vie, ce qui s'énonce du rapport à la vie. Alors, je vais arrêter là. Je veux dire deux exemples à travers des très courts textes que j'écris de loin en loin et qui, au milieu, disons, majoritairement des romans que j'écris, de fiction, sont des petits jalons qui finissent par constituer un ensemble. L'amour de loin, La Rotonde, Hongrie, récemment dans une autre collection de Actes Sud, mais moi je leur attache, je suis en train d'en écrire un autre, la première fois donc, qui finit par faire pour moi, là aussi c'est pas programmatique, je l'avais pas prévu, tiens je vais... Non mais au fur et à mesure j'ai besoin à certains moments de nécessité de faire le point, je dirais, de faire le point sur ces questions de l'image et qui sont ni des nouvelles, ni des essais théoriques, ni je sais pas, ça c'est ni ceci, ni cela. Je peux dire que dans leur forme peut-être, dans leur facture, c'est un dialogue que j'ai au bord. Je sais que ça commence toujours comme ça. Avant que nous nous endormions, il faut que je te dise. Avant que nous nous réveillions, il faut que je te dise. Avant que nous nous quittions, il faut que je te dise. Celui-là aussi, c'est entre la veille et le sommeil. Je sais que ça se situe comme ça, ces petits textes. Je suis toujours dans cet état de somnambulisme où on est entre réveil et veille, entre veille et sommeil, où peuvent apparaître des formes psychiques, vous savez bien, du rêve éveillé, de toutes ces constructions imaginaires que nous avons tous les jours, tous les soirs, tous les matins, dans ces périodes intermédiaires entre le sommeil et la veille. On n'a pas ressaisi par la conscience bien claire, bien éclairée, avec beaucoup de lumière et quelquefois trop d'éblouissement, les choses. Voilà. Bon. Donc je sais que ces textes, ils ont ça en commun, qu'ils sont des dialogues avec un interlocuteur. C'est sans doute le lecteur. C'est quelqu'un qui couche avec moi. Enfin, j'entends. Ce narrateur, il dit je, c'est pas forcément moi, mais il y a un narrateur qui dort avec quelqu'un, et que ce quelqu'un est de même éveillé ou endormi, apte à entendre et à répondre. Il est en. Voilà. Je sais que ça, en même temps, ça raconte une histoire, une petite histoire, mais c'est aussi un défi parce que c'est pas vraiment une nouvelle. Bon, alors La Rotonde, mettons. La Rotonde, c'est je lis juste les premières lignes. Hein. Ça commence ainsi, c'est un peu comme un petit dispositif, n'est-ce pas, pour dire. Tandis que je naissais, vous savez qu'il est interdit de conjuguer le verbe naître ainsi. Tandis, on ne peut pas le dire, ça. Je naquis, certes, je naquis, mais je naissais à l'imparfait, c'est très... Tandis que je naissais, mon père tira soudain un coup de fusil à bout portant sur la jeune sœur de ma mère. Par accident, inadvertance ou par fatalité, la balle à elle adressée alla toucher au creux du cou sa belle amie sortant de son lointain jardin au sud. À l'instant, le frère de celle-ci, escaladant la falaise, par héroïsme ou vanité, surpris par la détonation, faisait une chute mortelle sur les rochers de la baie au nord extrême du paysage. Ma mère, qui me mettait péniblement au monde, fut tant saisie de ces nouvelles que son lait tarit à l'instant même et qu'une nourrice fut envoyée guérir d'urgence. Elle s'en vint courant chez nous, abandonnant son linge. Une à une, les gouttes bleues heurtent la pierre, leur chute sonore emplit le lavoir désert. L'orage gronde. La brise fraîche froisse la mer. La raison est inconnue de nous pour laquelle mon père tira si maladroitement sur la cadette de ma mère un coup de fusil à bout portant, dont la balle, traversant la baie, atteignit mademoiselle Elzéar, son amie, et surprit mortellement l'intrépide escaladeur de falaise. Car dès ce jour, désarmé, mon père sombra dans une mélancolie que ni ma mère ni ma naissance ne consolaient, et jusqu'à sa fin prochaine, ne pleura plus que sa balle perdue. Or, une voix dissidente établit que, par grâce ou par traîtrise, la jeune sœur de ma mère esquiva le coup en ployant prestement la hanche, comme font à la corrida les matadors, et que sa belle amie, en fait de balle perdue, reçut au creux de la salière la piqûre cruelle d'un guépon agacé par son ombrelle, dont elle manqua mourir, tant enfla sitôt sa gorge. Il est également avéré que le frère de celle-ci, fin pianiste mais piètre alpiniste, et tête brûlée, pour grimper par le plus mauvais côté et sans équipement, avait gagé avec le gardien son voisin certaines lettres qu'il convoitait. Du moins, c'est ainsi que furent falsifiées les circonstances de ma naissance. Le frère de mademoiselle Elzéar est bien le seul mort de ce jour-là. Son corps disloqué gît sur la grève. Vite, avant que nous ne nous réveillions, avant que propulsée à la vitesse des balistiques, la balle du fusil ne quitte son âme et n'atteigne sa cible, ou plutôt sa destination, je dois te dire cette image panoramique. Donc ça, c'est le début, qui est l'histoire d'un dispositif panoramique, d'un paysage totalement visible à 360 degrés, dans lequel se déplace une balle qui avait un but qui le manque et qui va à sa destination à l'autre bout du paysage. Mais quel est cet autre bout, puisqu'on est à 360 degrés? Et pendant ce temps-là, qui est le temps balistique de la balle, mais qui prend un certain temps pour parcourir ce donc temps et vitesse, pour parcourir cet espace, ont lieu un certain nombre d'événements simultanés qui sont un défi à toute narration romanesque. Comment raconter en littérature, avec la langue qui est linéaire, mot à mot, Giono s'en désespère, mais enfin... À l'aventure de la phrase, il va bien falloir organiser mot à mot ce qu'il y a à raconter. Et donc, en quelque sorte, ce temps, qui est bien sûr le temps photographique, vous le comprenez, comment, dans ce compressé de temps balistique, installer tout un dispositif qui est, lors de l'explosion du fusil, un roman. Il n'y a pas de roman là-dedans, évidemment, mais il y a tous les éléments prêts dans leur... disposition spatiale et temporelle à faire un roman. Il est donc question de vitesse, là, du temps, de temps et de vitesse, et ça, c'est spécifiquement la photographie. Mais ce temps-là est un défi pour l'opérateur, même sans qu'il le sache, au moment du déclenchement. Et j'ai trouvé, je pense que c'est peut-être même le déclencheur de ce texte, un tableau magnifique qui est écrit en 1886 par, je ne sais pas ce qu'il fait exactement ce monsieur, qui a tenté désespérément d'établir le 93, hein, publié dans la revue d'astronomie populaire de Camille Flammarion. Du plus lent au plus rapide, il établit la vitesse relative, évidemment, au temps photographique, de la croissance des ongles, l'écoulement du sang dans la queue d'un têtard ou dans l'artère crurale d'un chien, progression du colimaçon, lecture d'un texte courant par un lecteur A-t-il des lunettes ou pas de lunettes? Est-il presbyte ou non, hein? Ascension humaine d'un escalier, chute d'un corps à la surface de Neptune, brise fraîche, vol de la mouche, vitesse initiale d'un boulet de canon, révolution de Vénus autour du Soleil, un tableau surréaliste de toutes les vitesses relatives à la vitesse du temps photographique, c'est-à-dire de l'obturateur, c'est-à-dire de la sensibilité des gélatines. C'est pourquoi dans Rolla Rotonde, il y a ce moment, malgré sa promptitude, moins grande en regard que celle de la lumière rapide des photographies, la balle dont il est question comprend, pensez-y, le temps balistique de son trajet dans l'espace, d'un ordre très minime mais considérable, en tout cas quant à son déplacement, compte tenu par ailleurs de la température de combustion de sa poudre, qui l'a fait chaude ou froide, la trajectoire de la balle prend donc un certain temps, en tout cas un laps de temps suffisant à l'avènement d'actions multiples et simultanées, chacune à sa propre vitesse de développement. Par exemple, le preste mouvement d'une hanche de femme qui, quoique corsetée, baleinée, avec la souplesse des cannes de cuir, d'un écart providentiel fléchissant sa courbe tangente, l'éloigne de la trajectoire du projectile qui jaillit du canon. Comme s'incurve au loin une clavicule articulée au cartilage flexible d'un sternum, ajustant la torsion du buste dans l'exact alignement de la trajectoire de la balle ou de la guêpe, comme la prise robuste d'une main d'alpiniste, pianiste, qui, échouant sur un interstice de rochers violets, à l'endroit où de jeunes pousses de lichen déploient depuis hier leurs radicelles humectées de brise iodée, y accrochent, malheur, l'ongle trop long d'un doigt portant un anneau d'or, au moment précis où retentit la détonation proche du coup de fusil adressé à l'une, destiné à l'autre. De ce concours de circonstances, rien ne rend compte à présent, sinon la rapide mais très lente, en regard de celle de la lumière, vitesse de la balle jaillie du canon qui commence son déplacement narratif. Car les théoriciens de l'instant photographique l'ont estimé à la même seconde, les corps en mouvement se déplacent à des vitesses relatives sans comparaison. Ainsi court le cheval au galop vers la côte à 18,71 mètres par seconde, croissent les ongles à 2 millionièmes de mètres par seconde, grandit le buis à 7 millionièmes de mètres par seconde, le sang s'écoule dans les capillaires rétiniens de l'homme armé à 0,00075 mètres par seconde et dans son artère crurale à 0,16 mètres par seconde, le colimaçon progresse sur le brin d'herbe, etc. La lettre se lit à d'un bon œil et chute le soleil vers la terre, tandis qu'à l'air libre se consume la poudre de guerre à 0,013 mètres par seconde, le pianiste gravit la falaise à 0,05 mètres par seconde et, selon Étienne Jules Marais, l'anguille file dans la vase à 0,21 mètres par seconde, le courant d'eau déposant dans l'estuaire du sable fin fuit à 0,24 mètres par seconde, mais si le sable est grossier, à 0,32 mètres par seconde, vitesse identique à celle de la combustion de la poudre dans la d'une arme de gros calibre, quelle est l'âme du fusil de mon père? La brise fraîche passe à 10 mètres par seconde et le vol de la guêpe à 53 mètres par seconde. Un boulet de canon atteint initialement 1013 mètres par seconde, la révolution de Vénus autour du Soleil, parfois 34 630 mètres par seconde. Et la lumière, dans l'instant, la seconde où je nais, je crie, à l'instant où tire mon père, pousse l'ongle du pianiste alpiniste, paraît le Soleil. Court le cheval, vole la guêpe ou la balle, vers le cou de la belle, gronde l'orage et fraîchit la brise. Il y a, elle m'est donnée, hein, la dimension poétique surréaliste, folle, mais qui correspond à un imaginaire scientifique, de maîtriser les temps terrestres, bien sûr, cosmiques, des déplacements relatifs de tous les corps au monde. Et quoi d'autre est-il question en photographie? Qu'arrive à s'ajuster la vitesse de saisie de l'obturateur, on ne se pose même plus la question aujourd'hui en numérique, n'est-ce pas? Et de ce que nous cherchons à capter de nos vies, de la vie. L'autre dimension, je vais finir là-dessus, c'est la chimie. Alors, la chimie, entendez, c'est celle qu'entreprend Niepce, et dont j'ai ébauché tout à l'heure la question, de ce bitume qu'il trouve après en avoir testé plusieurs, et qui est le bitume de Judée. Comme son nom l'indique, il vient de la mer morte. Ce sont les blocs détachés des profondeurs telluriques et des pourrissements organiques, comme vous le savez, végétaux, qui donnent ce qu'on appelle les goudrons, hein, les bitumes, et qui s'appellent, paraît-il, en hébreu, excréments du diable. Il y a là une rencontre, sans doute, de l'ordre linguistique, mais on sait bien à quel point les langues enferment les pensées, l'imaginaire et l'esprit des peuples. À nommer ainsi cette matière, excrément du diable, on touche du doigt, et entendez, du diable, la matière la plus répugnante et la plus interdite, celle de l'excrément, de ce qu'est le pire qu'il est capable de produire, diaboliquement, n'est-ce pas, et qui tente l'image, qui est celle qui va être le premier réceptacle de l'image. Et vous le savez bien, il y a aussi toute la dimension théologique de l'interdit de l'image, de la représentation, et qui n'est pas seulement liée à l'islam, à la Bible, aux grandes religions judéo-chrétiennes, mais ailleurs dans le monde aussi, des grandes questions de civilisation, de l'image. Et donc cette question de l'excrément du diable, quelle rencontre inouïe, n'est-ce pas, que les techniques de la lumière pour représenter le monde, qui font de l'image, hein, soit, mais, et pour médium et pour support, cette matière-là. Ce que ça nous ouvre, moi je suis pas, je ne vais pas avancer davantage, ce que ça peut nous ouvrir, je ne sais pas si c'est un abîme, si c'est un gouffre, mais n'ayons pas peur de descendre dans les gouffres, y compris avec Alice, de descendre dans les puits où nous tombons, jusqu'à des zones antipodiques, n'est-ce pas, où les choses vont s'inverser et peut-être prendre figure pour nous. Il faut aller de l'autre côté. Bon, c'est peut-être ça, peut-être aussi que donc, j'ai davantage fréquenté dans mon dernier texte qui s'appelle « La première fois », en hommage encore à Niepce et à tout ce que l'inventivité dont je parlais tout à l'heure, ingéniosité de ces self-made men issus des Lumières, n'est-ce pas, apprentis sorciers, et qui trafiquent avec l'alchimie, hein, tout ce qu'on voudra, toutes ces matières qu'ils utilisent dans leur premier laboratoire. C'est un résultat de laboratoire, la photo. Hein. Pense-t-on dans le noir comme au plein jour, de même à midi qu'au crépuscule, l'hiver et l'été, les pensées ont-elles des températures de couleur? La physique des géométries naturelles ont-elles une ressemblance? Ou bien sont-elles abstraites, stylisées et graduées en valeur de la même matière mutante que les sels d'iode, de chlorure, le nitre, le mercure? Sont-elles chimiques? Sont-elles volatiles? Ont-elles des odeurs? Il fait une chaleur d'été dans ces ténèbres. Une touffeur d'étuves ou de marées croupies sous les soleils, bord de la mer morte, lac asphaltite en grec, à la surface duquel flottent des blocs détachés des gouffres où dorment les fossiles bitumineux, desquels est tiré le goudron de Judée, qui servit de mortier à Babylone, à calfater la coque des bateaux, à oindre les momies d'Égypte. Cette substance est meilleure que la résine de Sandarac, extraite du cyprès de l'Atlas, soluble dans l'essence de térébenthine et qui donne des vernis de toute beauté mais ne garde pas la moindre pensée d'image. Meilleure que la gomme verdâtre du gaillac tropical qui sert à la pharmacopée, note de santal, suave, entêtante. Que la poix de Bourgogne, ou même que l'asphalte des mines de ces sels dans l'Ain qu'expérimente Niepce, le bitume de Judée meilleur a-t-il pensé? Il le pense dans le noir de sa chambre, dans la première nuit photographique du monde. Il pense aux chimies de l'ombre. Il y a une odeur dans cette chambre. Extrait de lavande, vapeur de phosphore, de mercure chauffé à la lampe à alcool, cela sent l'acétone. La térébenthine de Venise, sa fumigation balsamique, le galipot de daguerre, le potassium aussi, et parfois l'ammoniac, cela sent l'acide gallique. Le sumac ou la mamélis astringent, la feuille de thé infusée, leur tanin végétal précipité en poudre blanche sur le verre des tubes à essai. Également la cire d'abeille fondue de legrès, sa coulée aromatique, l'albumine fade des papiers, le collodion, coton poudre dissous dans l'éther, l'hyposulfite. Un été, au lieu dit Saint-Loup de Varenne, dans la chambre du Gras, à l'étage pour la première fois, et si peu s'est transmis de cette première fois, le bitume de Judée, son glacis vermeil garda l'impression d'une image gravée par l'action de la lumière. Une très vague, très brumeuse et fuligineuse vue de la fenêtre du Gras par où entrait en souffle tiède l'odeur du vent dans le tilleul, des fruits mûrs du verger, du foin moissonné, l'épice du trèfle et des graminées, d'un croquant à l'amande qui cuit à la cuisine, odeur enfantine de beurre fondu, de farine et de sucre, un jour d'août 1826. Cette chambre noire est une cuisine de campagne. On y sent l'essence de lavande qui dépouille sur la plaque exposée l'image incertaine, décape les réticules de vernis qui n'ont pas réagi, fixées ensuite à l'hyposulfite. Celle de sodium extrait des pins que cuisent les goémoniers dans les fours à soude, des épaves de varech échouées sur les plages desquelles la puanteur fait fuir bêtes et gens, sentue l'iode, l'embrun des vagues, l'immense amertume maritime venue des lointains antipodiques, une odeur très 18e siècle, très siècle des lumières obsédées de voyage et de connaissances, tant des manipulateurs empiriques et des génies scientifiques, observateurs inspirés des phénomènes et démons expérimentaux que sont les pionniers de la photographie à l'aube du siècle industriel, gentlemen autodidactes, illusionnistes distingués, magiciens de théâtre, caricaturistes épris de machines nouvelles et d'ombres chinoises, inventant le piège à images le plus fou que l'humanité ait rêvé. Ont-ils tant et plus trempé les mains virtuoses dans ces soupes infernales, agité les mains visqueux, inhalé leur gaz vésicant, tout à leur cuisine, tout à leur cuisine de sorciers ont-ils humé jusqu'à l'ébriété l'odeur photographique d'où naissent les images, leurs nuages d'images, leurs vases et leurs brumes, leurs brouillards de sable dont le magnétisme enchante, estompage vaporeux d'éponges marines, exquis flocons minéraux épars dans les gélatines elles-mêmes, tirés des distillations organiques, cornes d'ongulés, carcasses animales, cela sent la mort, le carnage. Cela sent les natures mortes au bœuf écorché, le cheval équarri, les abattoirs de guerre au soleil ardent où gisent les jeunes soldats éventrés. Cette brume monte des charniers comme des fosses bitumineuses de Judée. Elle monte des eaux croupies, des marécages et des lagunes, des bords d'estuaires où crèvent les bulles de vase. Nos fantômes en sont drapés dans la lumière noire des photos, dans l'ombre dangereuse du souvenir. Je me souviens de la chambre noire, de la cuisine des Calinottes, telle que je ne la verrai jamais une dernière fois. Mais avant que je ne quitte cette maison, il faut que je te dise le souvenir d'avoir été un soir, encerclé d'herbe dans une prairie que le couchant allume, ma sœur et moi épousés debout, l'air est roux, fort poudré de folle avoine, faisant des tourbillons sous le vent des nuées d'insectes grésillants, des vols d'abeilles, de sauterelles, nous nous aimions face à face. Elle inclinait son visage pour me dire à l'oreille un secret que je n'ai pas entendu. Sous ses cheveux, son front touche le mien, comme font les chèvres. La fourrure d'herbe agace nos chevilles, nos genoux et parfume de vers nos cuisses, tandis que nous nous roulons sous les acacias, sous les grands pins. Les aiguilles piquent nos fesses, nos épaules, alors paume contre paume, joue poissée de résine. Elle me chuchote quelque chose qu'aujourd'hui encore je m'entête à écouter. Nous avons 13 ans en robe d'été, nous sommes ensemble avant qu'elle ne meure. Sur les routes de terre, j'enlace sa taille montée sur son porte-bagages et nous filons dans le vent porteur d'humus, de fougères, vois les coins humides où poussent les chanterelles, où se cachent les rainettes, ses cheveux fouettent mes yeux. Je bats des paupières lourdes. Que faisions-nous dans ce pré sur la route, si loin des Calinottes? Était-ce une promesse du soir, un serment à l'odeur d'amande amère? Nos sens étaient neufs. Quel chagrin de grandir au-delà de ses forces, de perdre dans le passage de l'âge les gestes nouveaux d'alors, les paroles, la mémoire de nos ombres, infidèles à la mort. C'est une manière de filer de la photo et des chimies de l'ombre, des petites chimies de l'ombre, les ombres de la mémoire et le travail d'écrivain. Merci. Merci à vous. Merci.
Merci infiniment, Anne-Marie Gara. À la fois de cette lecture et de cette lecture qui fait entendre votre écriture, je crois, qui engage et qui donne envie d'en lire encore.
Et de faire des photos.
Mais alors, c'est ça qui est. Vous l'avez très, très précisément dit, et c'est vrai que c'est sensible dans. dans vos livres. C'est cette sensualité de la chimie. Je pense que pour les étudiants qui viennent d'horizons littéraires ou artistiques, ça n'est pas forcément évident. Mais vous montrez comment la chimie est organique, comment la matière sensible de la photographie est une forme sensuelle, une forme organique, une forme vivante, qu'elle est émue, comme disent les tireurs. et c'est effectivement cet imaginaire extraordinairement vivant par rapport à cette image dont Barthes, je pense, a été un des premiers promoteurs de son caractère mortifère. C'est pas ce que vous montrez, c'est à quel point, voilà, il s'agit de vie et de son envers, en tout cas que la question se pose là et qu'elle n'est pas tombée brutalement d'un côté au détriment d'un autre. Mais je veux pas accaparer la parole parce que moi je vais avoir un peu de temps après avec Anne-Marie Gara, donc je vais vous laisser poser des questions. Je suppose qu'il y en a ou des réactions. Si ce n'est chimique.
C'est difficile parce que c'est un grand moment d'émotion. Donc c'est ça aussi qui est difficile à retranscrire. Je veux dire que vous parlez de nous. Vous parlez aussi de nous, des gens qui vous écoutent. Donc c'est un grand moment d'émotion de vous écouter lire.
Je crois que ce que j'ai dit, tout le monde le sait.
Oui, mais...
Même à notre insu, le plus étourdiment que nous fassions des photos, surtout les amateurs au sens des pratiques artisanales, et là, je crois qu'on sait qu'avec la photo, on a quelque chose d'aussi profondément lié à notre histoire longue, à l'histoire des sciences, à l'histoire des peuples, à l'histoire de la représentation de soi, et tout ce que ça draine de nous, de nos visages, de nos regards, de tout ce qui tout ça et qu'interroge la photo. Je crois qu'on le sait. Donc si je l'énonce un peu pour moi-même, évidemment, j'ai besoin de le dire à moi-même, de le faire meilleur genre langage. Je pense aussi que ce que j'ai dit, beaucoup de gens le savent, que c'est pas un scoop, quoi.
Non, mais ça, c'est la façon de le dire.
C'est une question de langage.
C'est ça qui est très émouvant. En même temps, vous parlez aussi de la façon dont ça fonctionne, etc. Mais vous y mettez tellement d'écriture que ça devient très émouvant, quoi. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire. Je ne peux pas dire autre chose.
Merci.
Je voulais vous poser une question. Parce que vous parlez beaucoup de photos, vraiment le côté sensible, encore une fois, donc des premières photos, des tirages, des photos de famille. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a quand même un grand marché de la dématérialisation de la photo qui reste sur l'écran. Et quand elle est tirée, elle n'est même pas tirée en tant que photo, elle va être tirée directement dans un album, par exemple. Et comment vous pouvez voir l'évolution de votre écriture qu'il pourrait avoir avec ce nouveau type de photographie, en tout cas moderne, c'est-à-dire que le papier, l'aspect, je dirais, sensible du résultat à la fin, existe, mais sous une forme totalement différente, pour le coup.
Oui. Je suis comme tout le monde, moi je fais des photos d'amateurs, je fais des photos avec mon appareil, y compris avec mon téléphone portable. Et je sais, c'est pour ça que j'ai Actes Sud qui a republié, j'ai fait un chapitre où j'essaie de me dire à moi-même ce qui se passe là. Je le vis moi-même, le corpus énorme, n'est-ce pas, où la photo, la rareté a disparu. La photo est gratuite, enfin, elle est tellement facile à produire, elle peut être même effacée dans l'instant même, quasiment simultanément au moment où on la produit, sans qu'on se donne le temps de réfléchir pourquoi on l'annule et voilà. Et donc stocké de manière dématérialisée, même transféré dans tout ce qu'on veut, les mémoires, comme on dit, les mémoires, cette extraordinaire utilisation d'un terme pour quelque chose qui va si peu mémoriser, j'entends, y compris dans les clouds, tout ce que vous voulez, de ces stocks dans le monde, où sont-ils, et dans leur fragilité même de conservation, à laquelle nous confions toutes ces images-là. Mais après tout, si nous avons si peu de constance et d'attachement à ces images-là, nous avons peut-être bien raison, peut-être qu'elles ne valent rien. J'entends que la dévalorisation de chaque image, la rareté étant perdue, fait que, je donne l'exemple de ma fille qui avait perdu un fichier de 800 photos de l'été dernier, je dis, est-ce qu'il y en a une de ces photos-là que ça te fait du chagrin de ne pas l'avoir, une parmi toutes celles-là? Ben non, elle ne voyait pas une parmi, donc ce n'est pas grave. Une ou 800, c'est pareil. Et au fond, qu'est-ce qui se passe si l'été est perdu? L'été est-il perdu? Alors, nous disions de manière redondante, vous savez, en rentrant de vacances, on faisait des photos, on les portait chez le photographe à la FNAC ou je ne sais pas quoi, et puis on se voyait joyeux, bruni, plus beau qu'à notre ordinaire l'hiver, quand on est un peu moche dans son miroir, là on était beau sur la plage, etc. Bon, cette photo-là, si on réfléchit, elle est très redondante par rapport à ce qu'on vient de vivre tout à l'heure, dans la minute, l'heure, hier, avant-hier, il y a une semaine ou il y a deux mois, bon, elle est très redondante, elle ne nous apprend rien du tout. Sinon, ce qui sans doute préside à la photo numérique aujourd'hui, celle qu'on fait, les photos, hein, c'est cette vérification, peut-être plus anxieuse qu'elle n'en a l'air, de est-ce que j'y suis bien? Est-ce que tu me vois? Tout de suite, je l'expédie, tu m'as vu? Alors, si tu m'as vu, c'est que j'y suis bien? Je suis, donc, puisque tu me dis que je suis... Puis après ça, la photo, elle disparaît ou elle a circulé deux, trois fois sur deux ou trois ordinateurs d'écran ou de téléphone mobile, en fait, etc. Puis hop, bon, on l'a fait disparaître. Au fond, elle n'a eu que cette fonction-là de quasiment fatigue de dire « je suis là et tu y es ». Alors que l'autre, finalement, attendez, il fallait quelquefois peut-être attendre 30 ans, l'oublier comme le vin, je dirais presque, hein, vous savez, le laisser vieillir pour que tout d'un coup ressurgit au bout de 30 ans, quelquefois plus, hein, quelquefois moins, que tout d'un coup, là, chargé d'un temps. Et le temps, nous ne pouvons pas en faire l'économie, entendez. On peut toujours le précipiter, s'imaginer qu'on le précipite, ou s'imaginer qu'on le ralentit. Non. Il y a là, on est là face à un impératif. Qu'advient-il de nous en photographie? J'entends, dans le temps long de la photographie, ou ce dépôt photographique, oublié, hein, dans l'oubli, et la perte même, et la perte. Quelque chose de nous, fantomatique, et d'une présence absence, c'est écrite, qui vaut rien, qui ne vaut que ce que nous transférons sur elle. Hein. Des photos numériques, nous pouvons dès maintenant nous demander si même l'année prochaine, ou dans 30 ans, à plus forte raison dans 100 ans, n'est-ce pas, il restera trace. Et nous sommes dans un autre régime, je pense, de temporalité. Moi, je ne suis pas de ceux qui se désespèrent avec ça. Je pense que les outillages, les appareillages, ce sont les artistes essentiellement, hein, qui comprennent très vite, tout de suite, les potentialités à la marge non prévues par l'industrie. J'entends qu'il y a un standard de la production des appareils numériques, et surtout ceux qui ne sont pas chers. Parce que dès qu'un artiste veut s'appareiller, il a à sa disposition des outillages. Bon, il faut mettre le prix, hein. Mais bon, l'appareillage ordinaire de l'homme de la rue, quoi, de vous et de moi, c'est des appareils pas très chers. Et c'est l'industrie qui nous commande, d'ailleurs comme Eastman, hein, nous commande, vous savez, qui ordonne, qui surdétermine l'usage que nous en faisons. Et il n'y a que les artistes. J'entends les plasticiens, les poètes, vous, à un moment donné, dans un espèce de dérapage où vous allez vous laisser à utiliser l'outil d'une manière imprévue. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence spontanée, entendez, générée par une époque, où des individus, des gens, ou des groupes, ou des, voilà, et dans des mouvances aussi, ça s'accapare d'un nouvel outil qui apparaît et lui invente des fonctions. Elles sont bien comprises dans l'appareillage, les fonctions, mais elles ne sont pas dans l'usage dominant. Et ce sont les artistes, il faut dire que c'est l'art, là. Vous voyez, qui invente. Moi, je suis très confiante, entendez, de tout son optimisme béat. Moi, je crois que le numérique, il a potentiellement une intelligence pour nous donner des images, un régime d'images et un rapport à l'image que nous allons inventer. Alors, il n'y a pas de nostalgie à avoir avec ces images argentiques, anciennes, qui nous montrent d'ailleurs, elles sont plus anciennes, hein, celles des daguerréotypes, elles ont une sacrée résistance d'existence. Il n'est pas sûr que nos images numériques aient une vie aussi longue. Vous voyez, paradoxalement, on se dit, on est autant de la mémoire algorithmique, disons. Hein. Ben, cette mémoire-là est sans doute moins fiable, en tout cas, vu de la sophistication des moyens pour la maintenir, la conserver. Et ça, c'est une grande question de notre temps, hein. Pas simplement pour la photo, pour les musées, pour partout, pour l'archive. C'est-à-dire que tout ce que nous accumulons d'une mémoire, de traces de mémoire, partout, on se pose la question de l'archive. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'archive? Moi aussi, c'est une question qui me hante, n'est-ce pas? Et dans mon dernier roman, alors là, au long cours, hein, des trois volumes de la trilogie romanesque, où je me suis laissé aller affranchi des interdits du nouveau roman, de ci, de là, tu le feras pas. Bon, l'âge venant, je me suis donné le droit d'écrire une grande épopée romanesque, hein, mais je le sais qu'elle est tenue dessous par un fil rouge qui est celui de l'archive. La question de la survivance de l'image pour le coup, là c'est 3 minutes de cinéma expérimental d'avant la guerre de 14, hein, et cette grande question qui est au centre de notre siècle, lisez Didier Huberman, lisez tous les... qui a travaillé sur cette question, parce qu'au centre est comme brûlante, la question c'est celle de l'irreprésentable, hein, de l'horreur, donc des camps, autour de 3 photos, lisez l'image malgré tout de Didier Huberman qui pose cette question. Que faisons-nous de l'archive, c'est-à-dire de la trace? Comment sommes-nous capables de la lire, de l'interpréter, de la transmettre, d'en tirer à la fois enseignement, pensée pour demain? Pense à demain. C'est une grande question. C'est un paradoxe. Comment penser demain? Mais je crois que la question de l'archive, donc de la conservation, du partage, de la transmission de toutes ces images exponentielles que nous sommes capables de produire aujourd'hui, nous ramène à cette question: que faisons-nous du temps, de notre inscription dans le temps, et notre manière de penser, d'imaginer le temps, c'est-à-dire la vie, hein, à la vitesse du temps et de la vie. Vous voyez, ces vitesses relatives. L'appareil numérique pose ces questions, moi, je crois. La seule chose que je sens, c'est ce qui s'est... Et c'est les grandes mutations technologiques, n'est-ce pas? Elles ont des conséquences, y compris dans les vies psychiques les plus intimes de nos vies, sans qu'on s'en rende compte. La pression digitale sur l'appareil classique, argentique, hein. Bon, on dit c'est le même avec l'appareil digital. Eh bien, de la même pression digitale, qu'elle puisse se renverser en négativité, c'est-à-dire que ce qui était impossible avec l'appareil argentique. Hein. De la même pression digitale, nous pouvons annuler le geste de la prise par la suppression, dans un raccourci qui ne laisse pas de place. Et ça peut aussi peut-être être symptomatique de notre temps, où il n'y a pas du lien, il y a de la connexion, où il n'y a pas le temps de la méditation, mais celui de l'instantanéité, de la circulation de l'actuel, n'est-ce pas, et qui demande toujours cette temporalité lourde qui est liée à nos vies, hein, qu'il nous faut du temps pour réfléchir, pour la réflexion, et à tous les sens du terme, hein, de ce que l'image reflète de nous, de ce qu'elle réfléchit de nous, de ce que nous réfléchissons de nous-mêmes. Où nous réfléchir, c'est-à-dire sur quel support. La pensée, elle obéit pas à notre temps, il est peut-être celui de la caverne, on est encore les mêmes organismes lourdeaux et mal dégrossis que nous étions à la caverne. Hein. On peut pas penser plus vite. Pensons-nous plus vite parce que nous avons inventé les supersoniques et le numérique. Ces flux rapides, hein, cette fluidité, ça m'intrigue, je suis pas sûre de maîtriser, de comprendre, mais je sais que cette fluidité électronique, pour moi, il y a un imaginaire aussi, dans la fluidité de l'écran, de l'électronique, de tout ce qui se... Dès que la vidéo est apparue, le magnétique et tout ça, pour moi, il s'est passé des choses dans ce qui bouge là-dedans, dans ce qui échappe, parce qu'il y a le flux, hein, et sa vitesse, du pixel qui voilà. Il y a quelque chose, moi, je trouve un imaginaire là qui est tout aussi passionnant, qui nous interroge, qui nous renvoie à nous-mêmes aujourd'hui. Et tant pis si nous perdons des images, après tout, il y en a qui valent d'être perdues. Et puis celles qui ne valaient pas d'être perdues, faites ou pas faites, elles ont une trace mnésique, psychique. Je pense que surtout les photos qu'on n'a pas faites, surtout celles qu'on voulait faire. Je parle du désir, hein. Peut-être ce qui disparaît un peu, vous avez compris, la photo argentique, il y avait un désir, même s'il était dans un temps très très raccourci du cadre. Je la fais pas, j'ai que 24 poses. J'ai que 12 poses, hein, en 6-6. Là, avec le numérique, bon. Mais le temps du désir, c'est-à-dire de flécher quelque chose de notre. De cette appétence qu'on a des autres, de ce qui se passe dans l'instant-là, de le vouloir. Hein. Volonté, désir. Et ça, le numérique, il va peut-être transformer notre désir, que notre désir prend d'autres formes. À nous, peut-être, c'est pour ça que je vous dis l'intelligence, à nous d'être assez intelligents pour réapprivoiser ce désir, cette forme de désir-là, de l'inventer. Bon, c'est tard, hein, peut-être, non, pour tout le monde. Il faut fermer la maison, là.
C'est que vous avez un train.
Oui, j'ai un train. C'est vrai aussi que j'ai un train. Dans une heure.
Sinon, vous gardez.
Merci à vous deux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Donc, il y a la table de la librairie Gibert qui vous permettra peut-être de reposer une question à Marie Garat, si vous le souhaitez, en même temps. Bonne soirée, merci d'avoir suivi ce cycle. Aux étudiants, à bientôt. Aux autres, à bientôt aussi, mais plus tard. Merci, bonne soirée à tous.